Merci, Monsieur le Président. Merci, Olivier. Je voudrais éclairer aujourd'hui une facette de la citoyenneté qui est cette notion de civilité que nous connaissons depuis les années 2000, mieux par son antonyme qui est l'incivilité ou les incivilités. Mais c'est une notion qui est en réalité assez ancienne et assez profonde, et je voudrais essayer d'en dire deux ou trois choses. La civilité a pour lieu de réalisation, pour lieu d'élection, si l'on peut dire les choses ainsi, dans l'espace public. Espace public qui, comme l'espace en typographie, se définit par une double exclusion spatiale. L'espace public, c'est ce qui n'est pas de la sphère privée, hein, qui est dessiné par le domicile, le mur, éventuellement la fenêtre, et également de la sphère étatique réservée aux agents de l'État, c'est-à-dire la caserne militaire, la préfecture, à l'exception des lieux étatiques qui reçoivent du public. Donc cette double exclusion spatiale se traduit aussi par une exclusion normative de la normativité politique ou de la normativité étatique. La règle étatique, en principe, ne vient pas les normer les comportements dans l'espace public, excepté l'interdiction de la violence, qui reste le champ spécifique du droit pénal. Bref, en principe, dans l'espace public, on échappe à la norme policière, au sens ancien de la norme policière, celle qui vient indiquer aux citoyens ce que doit être leur manière d'être, de se mouvoir, de se tenir, de se comporter dans l'espace public. Avec la civilité, et en pensant à la civilité, la norme étatique a pu se déployer dans deux directions. Celle, la norme étatique, qui vient protéger l'individu, la sphère privée, qui doit être préservée des intrusions d'autrui et de l'État, hein, c'est le domicile, la privacy. Et puis, l'autre direction, c'est celle de l'effacement de l'individu dans l'espace étatique, c'est-à-dire qu'on va faire disparaître, à travers le fonctionnaire, la singularité individuelle au profit de l'uniforme, au profit du devoir de réserve, bref, de quelque chose comme la neutralité. Et donc, à chaque type d'espace, sphère étatique, espace public et sphère privée, sont types de normes. Pour la sphère étatique, on a des normes de commandement, hein, qui se traduisent par des interdictions, par des réglementations, par l'imposition de tel ou tel comportement, hein, c'est vraiment les boutons de guêtre. Pour la sphère privée, on a des normes, au contraire, de protection, chaque individu faisant figure, en quelque sorte, de souverain à l'intérieur de sa sphère, à l'intérieur de son domicile, en mesure de s'imposer, mais seulement de s'imposer à lui-même, un comportement, des pratiques déterminées par des orientations morales, religieuses, sexuelles, mais choisies et consenties librement. Et puis, il y a enfin cet espace public. En principe, la norme dans l'espace public n'est pas fixée par l'État. C'est une norme de civilité qui est une série d'usages fixant des mœurs, des manières, une forme d'urbanité nécessaire à la relation entre les citoyens. Donc ces manières, hein, que je qualifie en employant l'expression de civilité dans son sens large, comme les normes de civilité, peuvent provenir de plusieurs sources, des sources privées, des sources provenant de la société, des sources étatiques. Parmi les sources privées, on peut citer les comportements spontanés qui sont évidemment évolutifs. Hein, c'est l'évolution des mœurs, mais une évolution des mœurs qui se fait en quelque sorte naturellement. On peut prendre l'exemple pour cela de l'intolérance et puis finalement de la tolérance du port du pantalon pour les femmes avec une règle d'interdiction au début du XIXe siècle et puis qui est inappliquée progressivement et d'ailleurs qui est toujours en vigueur aujourd'hui, l'interdiction du pantalon, mais qui est véritablement sortie des choses. Deuxième possibilité, des comportements qui sont façonnés par des incitations. Et là, je songe en particulier donc à la profusion des manuels de civilité, des manuels de savoir-vivre, hein, qui vont se diffuser à partir du livre pionnier d'Erasme en 1530, de la civilité puérile, et puis qui vont véritablement se répandre dans toute l'Europe occidentale. Tout le monde va se recopier jusqu'au XVIIIe, une éclipse pendant la Révolution, et puis de nouveau au XIXe siècle. Et puis, dernière hypothèse, eh bien, les comportements ne peuvent pas être façonnés ni par les mœurs, ni par les manuels de civilité. Et dans ce cas-là, eh bien, la norme étatique vient s'en emparer. L'exemple pour cela, évidemment, est la loi qui a été adoptée en 2010 sur l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public. Hein, c'est un comportement, la dissimulation du visage dans l'espace public ou le voile intégral, qui aurait pu disparaître de lui-même en raison d'une sorte de réprobation du groupe qu'auraient prise en considération les personnes qui jugeaient utile de le porter. Mais ce comportement aussi aurait pu se maintenir grâce à une acceptation progressive par le groupe, considérant que finalement il s'agissait d'un usage admissible. Dans les deux cas, la liberté aurait été conçue comme une abstention de l'intervention de l'État à l'égard du comportement de ses citoyens, et en l'occurrence de ses citoyennes, c'est-à-dire au fond une logique libérale d'autonomie de la société par rapport à l'État. Or, comme nous le savons, il n'en a rien été, la tolérance sociale du voile intégral n'a pas progressé, et le comportement des intéressés n'a pas été modifié. Donc, l'État a jugé utile de porter atteinte à une liberté qui n'est peut-être pas la liberté de se vêtir, mais la liberté de porter tel accessoire que l'on juge bon de porter. Alors, il me semble qu'on doit regarder ce phénomène comme un véritable recul de la civilité et qui est aussi une brèche dans la citoyenneté moderne. Alors, pourquoi une brèche dans la citoyenneté moderne ? Il me semble que cette citoyenneté moderne suppose la réunion dans la même personne de la participation politique, le métier de citoyen dont parle Nicolet, mais pour une partie de notre temps, et un temps très limité, l'égalité, ce qui exclut l'esclavage ou ce qui exclut également la société d'ordre, et puis la préservation des libertés, c'est-à-dire dans l'espace public, l'autonomie de la société par rapport à l'État, qui suppose de rendre son intervention à l'État non nécessaire. Et il me semble que c'est très intéressant parce que on voit apparaître assez exactement au XVIe siècle, en même temps, une offensive de la société cherchant à développer ses règles de civilité contre une offensive de l'État cherchant à policer la société. Autrement dit, plus la société fait preuve de savoir-vivre, d'urbanité, plus l'État est tenu à distance sans devoir maintenir un ordre public qui serait perturbé, et plus la liberté des modernes est garantie, et plus la liberté de chaque individu, à la fois individu libre et citoyen, peut s'épanouir. Alors, je voudrais préciser ce qui me semble être les caractéristiques de cette civilité dans leur rapport à la citoyenneté. Il me semble que l'une des dimensions doit être précisée sur cette civilité à côté du concept d'urbanité. Et puis, je voudrais ensuite développer l'idée que la civilité, contrairement à la politesse, la civilité suppose et produit de l'égalité, contrairement à la politesse. Et évidemment, je conclurai en considérant que le recul actuel de la civilité signale un recul de la citoyenneté moderne et donc de la liberté dans son sens moderne. Alors, sur l'urbanité, il faut d'abord situer les choses qui, telles qu'elles se présentent à la fin du Moyen-Âge. On voit apparaître à la fin du Moyen-Âge dans l'espace urbain des ordonnances de police et évidemment c'est cette réglementation de la manière d'être, mais qui règle aussi les approvisionnements, qui règle aussi les questions de salubrité, mais la manière de se tenir dans les espaces publics aussi se développe donc dans les villes au XIVe siècle. Et donc le mot urbanité apparaît à la même époque, hein, cette forme de savoir-vivre spéciale aux gens de la ville fait référence à cet enjeu qui est la concitoyenneté, c'est-à-dire le comportement que l'on doit adopter à l'extérieur, dans la relation avec autrui. Et cette croissance de l'activité policière va concomitamment aussi être l'occasion de l'apparition puis du développement de la civilité, beaucoup dans des sociétés protestantes, mais pas seulement, évidemment, hein, Érasme est catholique, même s'il est un humaniste, donc ce n'est pas une caractéristique uniquement protestante, même si il y a des éléments de protestantisme importants dans la notion de civilité. Mais en tout cas, cette civilité donc, se forme comme un savoir relatif à la manière d'être avec autrui, mais uniquement dans un rapport d'extériorité. Cette extériorité se traduit par deux choses. La civilité est spatialisée, et la civilité est purement formelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire qu'elle soit sincère, il n'est pas du tout impossible qu'elle soit hypocrite, mais qui sont des manières en réalité de préserver la liberté individuelle. Alors, la civilité prend naissance comme un objet de réflexion dans le contexte urbain, c'est-à-dire un contexte de proximité des corps, hein, qui s'effleurent, se voient, se sentent, s'appréhendent, se croisent, mais cette proximité ne traduit pas d'attachement, ne traduit pas de familiarité, ne traduit pas d'amitié, et ne traduit pas non plus d'affinité. Donc c'est pour ça que les règles de civilité vont concerner la manière de maintenir son corps, la question des bruits, des odeurs, des attitudes, dans ce lieu d'élection qui est le plus adéquat, qui est l'espace public. L'espace public, donc ce qu'on appelle le réseau viaire, hein, c'est-à-dire les rues, les routes, les places publiques, mais aussi, par exemple, au XIXe siècle, les transports publics, les lieux de spectacle. Mais par extension aussi, ces règles de civilité trouvent à s'appliquer à l'intérieur des maisons, à l'intérieur de la propriété dite privée, quand une propriété privée devient une sorte de lieu public par destination, c'est-à-dire un lieu où on va, le temps d'un dîner, le temps d'une réception, eh bien, choisir ses convives et les inviter à rentrer dans un lieu qui est en quelque sorte déprivatisé le temps du dîner. Et donc, la civilité va aussi concerner les règles de la manière de se tenir à table, la manière de converser, la manière de complimenter, tout ça dans une atmosphère que vous imaginez. Bref, la civilité se situe dans un entre-deux de comportements. On est en deçà de l'amitié, hein, l'amitié telle que conçue notamment dans le cadre des corps et des communautés dans le chapitre 7 du livre 2 de Bodin sur les corps et les communautés, en disant, il dit que les corps et les communautés se caractérisent par l'amitié, c'est-à-dire une forme d'engagement volontaire, que ne suppose pas du tout la civilité moderne. Mais cette civilité est quand même au-delà de la rivalité pensée par exemple Machiavel ou la rivalité pensée par les visions de l'état de nature dans son moment problématique, hein, dans son moment en général qui conduit au contrat social. Donc la civilité est un simple comportement extérieur, et en cela il préserve la sphère privée, la vie privée, l'indépendance de l'individu, et il ne s'impose que comme condition de la concitoyenneté dans certains lieux et dans certains moments. Deuxième point qui est très très important, me semble-t-il, c'est le rapport à la sincérité. La civilité n'a pas à être sincère. Elle est un simple comportement extérieur et elle peut parfaitement s'accompagner d'une certaine hypocrisie. Et c'est de cette manière-là qu'elle protège en réalité la vie privée, en proposant à chacun une ligne de défense qui est quand même relativement avancée. Si vous voulez, quand Rousseau se moque de la civilité en disant « mais le problème, c'est que tout ça, ce sont des manières, tout ça n'est pas très sincère, ça n'est pas l'élan du cœur », même si Rousseau, comme l'a bien montré Philippe Reynaud, peut avoir des passages un petit peu qui méritent plus d'attention. Voilà, la civilité, c'est effectivement l'anti-rotoïsme, l'anti-sincérité, mais c'est fait pour que l'État n'ait pas à intervenir pour garantir à chacun les frontières qui entourent sa vie privée. Autrement dit, s'il fallait utiliser une image, la civilité, ce sont peut-être des murets, hein, que chacun place avec chaque autre. Des enclosures, comme diraient les Anglais, ou des haies. Mais ce ne sont pas non plus des murs. Hein. Il y a une communication, mais une communication légèrement lointaine. Ce ne sont pas des murs au sens où il y aurait des frontières infranchissables entre chacun des individus. Et c'est en ce sens-là, me semble-t-il, que, comme le dit Philippe Reynaud dans son livre sur la politesse des Lumières, la civilité est une vertu politique sans devoir être une vertu morale. Alors c'est intéressant parce que cette civilité apparaît précisément au siècle de la réforme protestante, où on met en cause évidemment la capacité de l'Église à normer les comportements. Voilà, le chrétien protestant est un chrétien qui a un rapport direct à Dieu et par le livre, mais qui n'a pas un rapport médiatisé à Dieu par l'Église. Et donc, la civilité correspond aussi à cette manière de refuser la pénétration des institutions dans le comportement de chacun, en disant, voilà, après, moi, j'aurai mon jugement dernier, je m'occupe de cette affaire-là. La civilité doit être aussi distinguée, et donc voilà, elle doit être aussi distinguée de la vertu. Il me semble que la vertu à l'antique, telle qu'elle a été en particulier traitée par trois interventions depuis hier, a vocation quand même à être sincère, à être proche de quelque chose qu'on appellerait à l'époque moderne plutôt de l'ordre de la morale. La vertu n'est pas limitée dans le temps et dans l'espace, alors que la civilité, elle, ne se déploie qu'à certains moments et dans certains espaces. Pour le dire un petit peu autrement, la vertu concerne la citoyenneté à l'antique, et d'une certaine manière, la civilité concerne la concitoyenneté moderne. Hein, voilà. Le point que je voudrais aborder maintenant, c'est celui de l'égalité. Je voudrais essayer de montrer ici que la politesse est essentiellement aristocratique, nobiliaire, alors que la civilité est plutôt démocratique. Elle a quelque chose à voir avec l'égalité. Ceci se vérifie pour des raisons liées au niveau d'exigence plus faible sur le plan du comportement, un niveau d'exigence plus faible de la civilité qui est en quelque sorte accessible à tous, mais aussi pour des raisons liées à la transmission. Je vais aller très vite, mon cher Olivier, ne t'en fais pas. La distinction qui est faite souvent, c'est que dans la politesse, on va aller jusqu'à dire quelque chose qui est absolument contraire à la vérité pour faire plaisir à son interlocuteur. Et donc on va en réalité fausser la relation avec lui parce qu'on lui dit pour lui faire plaisir quelque chose qu'on ne pense vraiment absolument pas. Les exigences de la civilité sont légèrement en deçà de cela. On n'est pas obligé de mentir, on peut seulement s'abstenir de dire une vacherie. Ce qui est un petit peu... c'est un peu subtil, mais je lis Montesquieu qui dit des choses magnifiques là-dessus. La politesse flatte les vices des autres et la civilité nous empêche de mettre les nôtres au jour. C'est une barrière que les hommes mettent entre eux pour s'empêcher de se corrompre. Montesquieu est toujours brillant, mais là, il montre ici qu'avec la politesse, qui consiste à dire du bien, à féliciter l'autre pour son comportement, quel qu'il soit, on finit au fond par ignorer l'autre. Et d'un certain point de vue, on ne le reconnaît pas comme un concitoyen. En étant trop exigeant avec soi-même, en s'interdisant de dire quoi que ce soit à l'autre, celui qui est vicieux, on dresse un mur trop haut. Or, la civilité, c'est seulement un muret. C'est ce qui permet de cacher la partie de sa propre vie qu'on ne veut pas montrer, sans donner l'impression que l'on accepte facilement celle des autres. Donc, c'est cette barrière que les hommes mettent entre eux pour s'empêcher de se corrompre. En cachant ses propres turpitudes, j'empêche qu'elles puissent être imitées. En ne flattant que pas celles des autres, j'empêche qu'elles ne soient encouragées. La civilité montre des manières plus retenues, plus humbles, plus simple, et en cela, elle est plus à la portée de tous. Elle introduit de l'égalité, elle introduit de la concitoyenneté, mais en hissant les uns et les autres, je dirais, vers le haut. Le dernier point que je voudrais aborder très vite, c'est la question de l'apprentissage. Comment transmettons la civilité à partir d'Erasme, et puis avec Jean-Baptiste de La Salle, et puis toutes sortes d'ouvrages, la civilité rentre dans les maisons comme des manuels de savoir-vivre que l'on lit sur la manière d'être. Beaucoup n'étaient pas lus, mais ils font partie, comme les encyclopédies, vous savez, des livres qu'on a chez soi, mais que personne ne lit. Mais peu importe. Cette vague très considérable qui a été bien notée par de bons historiens de l'Ancien Régime, cette vague considérable de la diffusion des manuels de civilité, sont tout de même toujours dans une logique d'initiative de la société, donc d'autonomie, d'autonomos de cette société qui tient l'État à distance. Évidemment, la question se pose un petit peu différemment quand c'est l'État qui, à travers l'école publique, s'empare de cette civilité pour faire, à côté de l'instruction publique, une éducation nationale. Et il y a lieu de penser que l'État, en s'emparant de la problématique de la civilité à la fin du XIXe siècle, façonne un citoyen. Mais à partir du moment où la civilité perd son caractère originel, celui de former une alternative à la police, eh bien, on a quelque chose qui est de l'ordre d'une façon de policer, ou en tout cas la civilité, c'est-à-dire que la civilité devient quelque chose qui est imposé par l'État. Et donc ça, à mon avis, ça en trahit le caractère, hein, parce que au fond, en devenant civil et en devenant le citoyen que l'État a voulu, eh bien, d'un certain point de vue, on perd en partie ce que la civilité avait de nourrissant pour la liberté. Mais encore une fois, cette affaire-là, nous n'en sommes plus là. L'école publique, dans les années 70, a préféré l'instruction à l'éducation, et depuis peut-être les années 90-2000, se voit à nouveau assigner la tâche de civiliser ceux qui commettent des incivilités, avec les échecs que l'on sait. Les nouvelles incivilités, ces échecs de l'éducation, conduisent l'État donc à renoncer à protéger une certaine liberté, comme celle de son propre accoutrement, comme dans le cas du voile intégral. Je m'empresse de dire que c'est une loi à laquelle je me suis prononcé dans Ius Politicum, c'est une loi à laquelle je ne suis pas hostile, mais ce qui me désespère, c'est qu'on a eu besoin de recourir à la loi, et au fond, qu'en se décivilisant, eh bien, nous renoncions, qu'on le veuille ou non, à nos libertés. Merci de votre attention.